Bonjour et bienvenue à cette balado qui traite exclusivement d'éducation, de pédagogie et de didactique.
Je m'appelle Marc-André Girard. Bienvenue au rendez-vous pédagogique de l'École branchée. Je suis aujourd'hui avec M. Jacques Cool. Jacques, ça va bien?
Ça va très bien, Marc-André.
Alors Jacques, fais-nous un petit portrait de ton riche parcours en éducation.
Riche veut dire plusieurs années. Donc, j'arrive de la salle de classe d'abord. J'ai une formation en sciences, en biologie, mais j'ai enseigné aussi les sciences au secondaire au Nouveau-Brunswick. C'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi, j'ai travaillé. Il y a un certain nombre d'années, j'ai fait le saut vers le ministère de l'Éducation, dans le secteur francophone, où j'ai occupé plusieurs fonctions. D'abord, en évaluation des apprentissages, au niveau des fameux examens du ministère. Par la suite, au programme d'études, notamment au programme en sciences, mais ensuite, tout le curriculum du secondaire. Et d'autres dossiers, ce sont... parce que j'ai eu la chance de travailler dans plusieurs dossiers, dont un que j'ai beaucoup aimé, celui du leadership au niveau des jeunes, au niveau du secondaire. Je t'avouerais aussi, Marc-André, qu'une année marquante, c'était 2001, où j'ai travaillé avec quelques collègues à mettre sur pied ou à développer des cours en ligne pour les élèves du secondaire. Et ça a été une aventure assez riche parce que c'était quand même l'effervescence, l'ouverture, la découverte de tout ce que l'Internet pouvait donner comme outil. On sait que ça a quand même beaucoup changé depuis 15 ans. Mais au travers de ce dossier-là, qui a été très riche et puis très intéressant, j'ai su au fil des années faire un peu plus de veille par rapport à ce qui se passait, par rapport aux questionnements, par rapport aux nouvelles façons de faire les choses, d'entrevoir les choses d'éducation et avec ce levier qu'est le numérique. C'est quelque chose qui m'interpellait de plus en plus. Et ça m'a amené à ensuite vivre une autre expérience pendant une année et demie à l'Université de Moncton comme gestionnaire de l'équipe de e-learning ou de formation à distance là-bas. À mon retour au ministère, j'ai pu travailler au dossier des écoles communautaires. Donc, un concept très intéressant, très innovateur, qui vient vraiment faire le lien de plusieurs choses. Pour moi, ça a été très révélateur sur notamment la place que peut occuper le numérique dans une perspective de développement global du jeune qui s'entreprend et tout et tout. Jusqu'à cette année, en 2015, où j'ai accepté un nouveau défi, celui de venir à Montréal et de travailler au cadre 21. C'est dans les bureaux de la FEEP, Fédération des établissements d'enseignement privé. Mais c'est quand même un dossier, un projet qui voit grand pour l'ensemble de la francophonie. Donc, en gros, là, c'est mon parcours des dernières années. Du réseautage, l'animation, le partage de pratiques innovantes, la réflexion de fond sur des enjeux et tout ça. Un espace qui sera aussi diffusé virtuellement. C'est aussi beaucoup, je dirais surtout, une offre de développement professionnel. Donc, on sait très bien que les enseignants développent des fois de façon personnelle certaines compétences, par exemple, associées à l'intégration du numérique, et bien souvent ne sont pas formellement reconnues, mais on croit qu'il y a moyen de valoriser ce développement professionnel-là en permettant aux gens de venir se former ou de se prendre en charge dans les domaines qui les intéressent, quand on parle de compétences TIC, quand on parle de stratégie pédagogique ou de gestion de classe, et qu'il y ait une reconnaissance qui valorise finalement ce cheminement-là. Cette reconnaissance-là, elle se fait au moyen de badges numériques. En gros, qu'est-ce qu'un badge? C'est une image, on pense au badge scout et guide, mais c'est aussi un ensemble de données, donc des preuves à l'appui, les artefacts, la démarche réflexive d'une personne, d'un enseignant apprenant qui se tape des formations pour ensuite y associer des artefacts, des billets de blog, des vidéos, pour dire « voici en quoi on peut reconnaître ma compétences. Et en effet, ce badge-là permet de s'ajouter au portfolio professionnel des apprenants. Ce qui est intéressant, cet effet-là, j'ai déjà entendu des enseignants me dire, c'est bien beau le badge, moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est pouvoir m'engager dans une démarche où ce seront mes élèves qui seront les premiers bénéficiaires de cette démarche-là. Donc, je trouve ça fort noble. Ça, c'est la deuxième du cadre 21. La troisième, qui est un peu en appui aux deux premiers, c'est aussi une veille. C'est celle d'être à l'affût de ce que la recherche en éducation peut amener. Les recherches récentes, les données probantes et aussi le partage de pratiques gagnantes. Ce que je tiens à dire là-dessus, c'est que le cadre 21 ne veut pas s'ajouter comme un autre silo de veille ou de liens pertinents. Je pense qu'on veut plutôt aller vers une approche plus fédérée. On connaît plusieurs organisations qui en font déjà, qui la font très bien, autant pour de la recherche dans le domaine des chercheurs universitaires que des praticiens qui la mettent en... qui font part de leur développement, puis qui sont un peu plus dans une démarche de recherche-action. Donc, ceci, ça a le bénéfice de pouvoir contribuer à tout un corpus là, d'exemples et même de données probantes et de meilleures pratiques qui sont ensuite bénéficiaires, autant pour les gens qui veulent aller chercher des badges en formation continue que pour la personne qui vient, qui cherche finalement. Par exemple, je cherche quelque chose de pertinent qui parle de la classe inversée, quels sont les défis associés à ça. On espère qu'au travers de cet apport-là, de la façon la plus conviviale possible sur le site, que les gens pourront trouver ce qu'ils recherchent et repartir avec ça.
Mais c'est pour qui, cadre 21 en anglais?
C'est pour la francophonie. Pour la francophonie qui comprend autant la francophonie ici au Québec que la francophonie à l'échelle canadienne et j'irai même jusqu'à dire mondiale. Je crois qu'il y a tellement de choses intéressantes qui se passent un peu partout et que lorsqu'on peut permettre à le plus d'enseignants possible de vivre quelque chose de stimulant pour améliorer leur pratique, bien, ce sont nos élèves francophones et francophiles, je pourrais aussi ajouter, de pouvoir en bénéficier. Donc, c'est pas une chasse gardée, c'est vraiment un pôle, un endroit, une zone pour laquelle des éducateurs, du personnel enseignant, des dirigeants scolaires en milieu francophone pourront en bénéficier.
Mais au Québec, qui va être appelé à jouer un rôle ou à participer aux activités de cadre 21?
C'est certain que, à prime abord, les gens du réseau privé, puisque c'est logé au niveau de la FEIEP, les bureaux même de la FEIEP, entendent de premier ordre qu'est-ce qui se passe là, de par la diffusion des communications, déjà. Mais ce que je vois, Marc-André, c'est que des enseignants de partout, peu importe qu'ils soient du réseau privé ou public, et même collégial, primaire, secondaire, expriment de l'intérêt à cet effet-là parce que ce qu'ils ont en commun, c'est ce souci-là de développer des compétences, des nouvelles compétences, d'avoir à ça une forme de reconnaissance qui est appuyée par... donc, toute cette démarche réflexive-là qui fait en sorte qu'ils en développent, qu'ils essaient des choses et peu importe de quelle juridiction ils sont, on en a de ces gens-là. Et j'ose croire qu'à l'intérieur de chacune de ces juridictions-là, il y a un certain effet d'entraînement pour que d'autres enseignants dans leurs institutions puissent eux aussi longuer un peu puis essayer des choses et se mettre dans une démarche de croissance professionnelle.
Donc, francophonie au Québec, primaire, secondaire, privé, public, cégep, université aussi?
Ça peut aller jusque-là. Lorsqu'on regarde au niveau de, par exemple, une formation qui touche, je mentionnais un peu plus tôt, la classe inversée, bien, c'est certain qu'on peut avoir des modèles de classe inversée appliqués au contexte post-secondaire. On s'y prend peut-être un peu différemment, mais je pense que les fondements peuvent être les mêmes. On peut dire la même chose pour différentes compétences numériques, que ce soit l'usage des réseaux sociaux, que ce soit la création vidéo, l'écriture collaborative, c'est, peu importe l'ordre d'enseignement dans lequel on est ou le niveau d'enseignement dans lequel on est, ce sont des usages qui peuvent justement, qu'on peut bonifier ou qu'on peut utiliser pour bonifier justement notre enseignement.
Quelles sont les aspirations à, disons, court, moyen terme, 2-3 ans d'ici, pour le cadre 21?
Mais d'abord, c'est de bien s'installer. C'est de bien s'installer. On dit que l'ouverture se ferait en 2016. On espère dans la première partie de 2016. Pour faire cela, non seulement les installations physiques, mais aussi l'offre de badge, qu'il soit solide, qu'il soit de façon, qu'il soit offert avec une qualité du design pédagogique autour de justement cette zone de formation continue là, et aussi d'établir les différents partenariats pour assurer une bonne fédération de la veille. Donc, dans la prochaine année, c'est de partir sur des assises. Ce que j'aimerais dire à cet effet-là, si on remonte un peu en amont, il y a eu tout un travail de réflexion. Moi, j'arrive et il y a des fondations quand même très solides, notamment à partir de la démarche des dernières années de la FEEP sur le projet de l'école de demain. Et suite à des constats avec les données à l'appui que les élèves se sentaient démotivés ou peu d'aspiration ou peut-être des lacunes au niveau de leur méthode de travail, tout ça. Donc, un peu « Houston, we have a problem », qu'est-ce qu'on fait? Et il y a eu toute une série de groupes de réflexion, de tables, je pense qu'on a participé à quelques-unes aussi, pour voir, bon, ben qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, pour actualiser l'école? Et il y avait une de ces tables-là qui parlait de la valorisation du développement professionnel et qui a amené à l'émergence de ce concept de cadre 21-là et une décision d'y aller. Donc, je te dirais que j'arrive avec de la documentation, des référentiels par rapport, par exemple, les critères d'attribution d'un badge, qu'est-ce qui correspond à un premier, deuxième, troisième, quatrième niveau de développement de compétences. Donc, rien d'improvisé de ce côté-là. Donc, les fondements sont là, on est en train d'ériger les murs, physiquement et virtuellement, et de façon métaphorique aussi. Donc, la prochaine année, c'est de bien s'installer, de bien lancer la chose. La deuxième année sera une année de croissance qu'on espère et qu'au-delà de ça, on espère pouvoir pérenniser finalement ce service-là. Je dis le mot pérenniser, mais j'inclus là-dedans la dimension qu'il faut aussi savoir se renouveler. Le cadre 21, comme n'importe quelle autre organisation, que ce soit une école ou autre, après un certain nombre d'années, ce qui était bien au début, mais après un bout de temps, il faut peut-être mettre ça à jour. Hein? Les Anglais ont un beau terme qui s'appelle le « evergreening ». Donc, ça va être un défi du cadre 21 de pouvoir se renouveler constamment dans l'offre qu'on fait par rapport au badge et de rester pertinent au fil des prochaines années. On s'en va vers 2020, hein? On parle souvent de « qu'est-ce que sera l'éducation en 2020 ?» Je voyais encore sur Twitter tout à l'heure, hein, ça s'en vient dans pas longtemps. Lorsqu'on va y arriver, est-ce qu'on aura raté le rendez-vous ou est-ce qu'on y sera? Donc, c'est ça un peu le défi, de faire la croissance du cadre 21 pour offrir quelque chose de qualité sous ces différentes formes que j'écrivais, ces trois dimensions, mais aussi de pouvoir se renouveler et de rester pertinent.
Donc, partage.
Oui.
Veille,
oui.
Formation continue,
oui.
En gros.
Oui.
Donc, des choses, qui, évidemment, tout ça attribué concernant l'éducation. Si on veut en savoir plus, donc à partir de 2016, probablement,
oui.
Si on veut en savoir plus, qu'est-ce qu'on fait?
Mais pour l'instant, il y a un site qui sera le site, l'adresse est très simple, c'est cadre21.org, cadre21.org. Pour l'instant, une information qui décrit un peu ce que je viens de te raconter là. C'est à partir de ce site-là qu'on pourra voir le calendrier des événements au niveau de l'espace et tous les détails entourant cela, et aussi l'entrée vers la formation continue, l'offre de formation continue, ainsi que les éléments de la veille qu'on pourra recenser. Donc, cadre21.org, mais on a aussi une présence sur les réseaux sociaux, déjà compte Twitter le cadre 21, qui essaie aussi de contribuer à cette veille-là et de s'installer avec le réseau déjà très, très riche de tous les gens qu'on connaît, qu'on côtoie en ligne, et ce sera également dans les autres, autres outils principaux des réseaux sociaux. Mais ce qu'on cherche aussi à faire, c'est de prendre une place là, mais d'y apporter une valeur ajoutée, de donner une niche ou un créneau qui fait en sorte que les gens vont peut-être vouloir revenir voir ce qui se passe de ce côté-là, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram. Donc, on travaille très, très fort pour arriver à mettre tout ceci en œuvre pour que ça, que ça fasse partie du décor, finalement. Et qu'à ce moment-là, je crois que la décision reviendra toujours à l'individu, qu'il soit enseignant, qu'il soit directeur d'établissement, et de voir, bon, ben, quelles actions, quelles décisions je peux prendre pour me mettre en marche sur quelque chose, au niveau de développer ses compétences, au niveau de d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Ce qui fait que on crée un bel abreuvoir auquel, comme la métaphore le dit, les chevaux pourront le vivre, et j'ose croire que les chevaux auront très soif et vont s'abreuver.
Merci beaucoup, Jacques.
Un plaisir, Marc-André.
À bientôt.
Au revoir.